Il n'est pas surprenant que l'on écrive aujourd'hui la nécrologie du groupe pop le plus connu dans le monde, qui, cette dernière décade, a donné le ton, influencé la mode, inspiré un style de vie, créé des concerts de masse en plein air et, dans une certaine mesure, promu la jeunesse au premier rang des préoccupations nationales.
L'homme peut-il contrôler sa destinée ? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Ardot.
Un événement du passé mis en récit, mêlé à des archives et des musiques choisies, chaque samedi à 19h et à toute heure sur franceculture.fr. Voici Jukebox, bonsoir à tous. Ce soir, il y a 50 ans, les Beatles se séparaient. L'été 69, les quatre de Liverpool se retrouvaient en studio à Londres pour y enregistrer une toute dernière fois ensemble. Le résultat, intitulé Abbey Road, sortira en septembre suivant et dans la foulée, s'en sera fini du plus grand groupe du siècle, auteur de 13 albums studio en 7 ans de carrière et qui avait révolutionné la musique pop. Trop de fatigue, trop de drogue, une guerre des égos, l'irruption d'une encombrante muse, les Beatles allaient peu à peu redevenir quatre individualités incompatibles. Dans ce divorce à l'anglaise, on croisera un concert dans le vent, une enclume, la literie de chez Harrods, un paquet de biscuits secs et un village polynésien. Ce soir, 1969, Abbey Road, le chant du cygne des Beatles. Ils étaient tombés d'accord pour refaire un concert, mais où l'organiser ? Ça ne pouvait pas se passer n'importe où. Ça faisait presque 3 ans qu'ils ne s'étaient plus produits en public. Depuis l'été 66, c'est le cauchemar de leur tournée américaine. Ces concerts surdimensionnés et des groupies vociférantes qui les empêchaient eux-mêmes de s'entendre jouer. Là, l'idée n'est pas de faire dans la surenchère, juste de monter un mini-concert et de le filmer pour qu'il soit intégré à leur dernier projet, nom de code Get Back, un album-film dont les enregistrements ont commencé le mois précédent. Mais alors, où se produire ? Au London Palladium, l'historique salle d'Oxford Street, ou bien ailleurs ? Dans le Sahara ? Même si, évidemment, cela demanderait une énorme logistique et une énergie que, disons-le tout net, les Beatles n'ont plus. Finalement, une idée avait germé, on ne sait plus très bien dans l'esprit de qui, celle de simplement gravir l'escalier de l'immeuble d'Apple Corps, le nouveau label des Beatles, et de donner ce concert sur le toit-terrasse du bâtiment. Après tout, ça aurait de la gueule, un concert privé et surprise des Beatles au milieu des cheminées, avec vue sur Londres. Le 30 janvier 69, les premiers accords rugissent à l'heure du déjeuner. Et évidemment, dans la rue en contrebas, les têtes des employés du quartier sortis pour leur pause se lèvent vers le ciel, au-delà du dernier étage du numéro 3, Savile Row. Là-haut, parmi les briques, quelques Happy Few et plusieurs caméras, les Beatles emmitouflés, accompagnés pour l'occasion du clavier Billy Preston, jouent dans les bourrasques hivernales. L'espace de quelques instants, ils redeviennent quatre garçons dans le vent. Il sourit, il se marre. Ça dure ainsi une quarantaine de minutes, le temps de faire 9 prises de 5 de leurs nouvelles chansons, jusqu'à ce que dans la rue, l'attroupement des badauds finisse par bloquer la circulation, que des groupes se forment sur les toits environnants et que les bobbies parvenus jusqu'au toit sifflent la fin de la récré. Get back to where you once belonged.
Jojo. Yeah.
Get Back revient et le chant de Paul McCartney enregistré lors de ce qui restera le tout dernier concert des Beatles. Car malgré les sourires et les blagues échangées ce 30 janvier 69 en altitude devant les caméras de Michael, Lindsay, Hogg, les Beatles sont bel et bien au bord du gouffre.
Hi Ringo,
hi Ringo, happy New Year.
Hello, Hare Krishna.
We've said, why are we stuck in here? We could be doing it in LA, we could be in France. And every time we do it, and here we are again building another bloody castle round.
Quel paraît loin l'insouciance des années 60. Si pour leurs fans, les Beatles sont immortels, cela fait un bout de temps que leur alchimie est moribonde. Après le triomphe des débuts, les Beatles avaient d'abord marqué le coup en 66, prenant la décision d'arrêter les concerts, épuisés par le rythme des tournées et des hôtels, lassés par les cris suraigus de leurs fans, dégoûtés par certaines manifestations délirantes comme ces paralytiques qu'on leur amenait dans leur loge pour qu'ils les remettent d'aplomb. Par la suite, allaient pourtant s'ouvrir les années héroïques 66-67, au cours desquelles les Beatles enregistrent Revolver, puis Sgt. Pepper's. Deux albums majeurs qui marquent une étape cruciale, l'avènement du studio comme véritable lieu d'expérimentation et de recherche au cours de sessions marathon. En 68, poussés par l'attrait mystique de George Harrison, les Beatles étaient partis en Inde où ils avaient composé la matière du White Album qu'ils avaient commencé à enregistrer au printemps. À cette époque, John venait de se séparer de sa femme, s'entichant d'une plasticienne japonaise et perchée rencontrée lors d'un vernissage. Tombée dingue de Yoko Ono, Lennon avait alors peu à peu lâché les commandes du groupe que McCartney avait récupéré. Entre les deux têtes pensantes, l'ambiance était brusquement tendue et l'enregistrement de l'album blanc avait été un long calvaire. Tout comme l'a été, fin 68, janvier 69, l'enregistrement du projet Get Back qui doit pourtant marquer un retour à la simplicité stylistique des débuts. John se désintéresse du travail. Paul fait preuve d'un dirigisme exaspérant. Les kilomètres de bandes enregistrées sont finalement mis au placard et lorsque Get Back est finalement mixé, le groupe ne s'entend pas et le tout retourne sur des étagères. Autre sujet de brouille, la gestion des finances de l'Empire Beatles. En 67, Brian Epstein, leur manager et mentor, celui qui les avait lancés, passe l'arme à gauche. pour le remplacer, il est décidé de la création d'une société, Apple Corps, à la tête de laquelle Lennon souhaite placer Alan Klein, un agent new-yorkais aux manières brutales. Les autres sont d'accord, mais pas Paul, qui préférerait confier la tâche à son beau-père. La majorité l'emporte, mais pour McCartney, le camouflet est sévère et dit l'évolution d'un groupe où, quelques années plus tôt encore, jamais une telle décision n'aurait été prise autrement qu'à l'unanimité.
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the
tiré de l'album Sgt. Pepper's A Day in the Life de 1967 et incarnation du meilleur de la collaboration entre Paul et John. Deux ans plus tard, retour à une toute autre réalité.
Okay, Yoko.
Retour au printemps 69, où, malgré l'ambiance qui vire aigre, quelques titres sont mis en boîte, comme Mi-avril, la ballade de John et Yoko racontant la nouvelle vie des deux tourtereaux. Interdits de séjour aux États-Unis pour possession de cannabis, John et Yoko étaient partis se marier à Gibraltar. Dans la foulée, ils avaient rejoint Amsterdam où, depuis la suite 902 de l'hôtel Hilton, ils avaient, une semaine durant, accueilli toute la presse et l'intelligentsia locale depuis leur lit, donnant en pleine guerre du Vietnam un happening pacifiste sous forme de pyjama party. Le mois suivant, ils rééditeront l'expérience à Montréal. Entre-temps, mi-avril, McCartney voit Lennon débouler à Londres qui lui demande d'enregistrer le morceau en question. Après s'être inquiété des lignes où Lennon se compare au Christ, Paul s'était finalement exécuté et le titre avait été enregistré en moins d'une journée. George Martin, le producteur historique du groupe qui avait dirigé la session, dira « C'était à peine un morceau des Beatles et pourtant c'en était un. John avait déjà mentalement quitté le groupe. Je crois que c'est là que tout a commencé. » Bien sûr, les Beatles ne sont pas le seul groupe frappé alors par des dissensions internes. Leurs vieux potes des Rolling Stones, eux aussi, connaissent la crise. Après avoir enregistré en février l'essentiel de Let It Bleed, les Stones se séparent de Brian Jones qui succombera début juillet d'une baignade trop arrosée. Jones, qui avait participé quelques années plus tôt à un curieux morceau de Lennon et McCartney, You Know My Name, Look Up The Number, posant son saxophone sur quelques mesures à la fin de ce titre dont les prises vocales sont terminées cette fin avril 69. John et Paul surmontent alors leur dissension, improvisant en s'amusant des voix étranges, déroulant en boucle les uniques paroles « Tu connais mon nom, cherche le numéro dans l'annuaire », si tout était aussi simple qu'un coup de fil. Même si justement, quelques jours plus tard, George Martin, le producteur, reçoit un appel de McCartney, désireux, après la débâcle de Get Back, de recoller les morceaux des Beatles et de réunir le groupe pour un nouvel album, comme au bon vieux temps. Martin se montre suspect. John est d'accord ? Oui, John est d'accord. Eh bien alors, allons-y. Ce nom le rappelle des troupes.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Joker!
over me.
Come Together, enregistré entre le 21 et le 30 juillet à Abbey Road et qui ouvrira le futur album. Cette chanson, John l'avait composée début juin lors de son deuxième bed-in, sa pyjama party for peace avec Yoko à Montréal. Là, parmi la petite foule qui s'était pressée dans la suite de l'hôtel Queen Elizabeth, Timothy Leary, le pape du LSD. Ce dernier avait décidé de se présenter au poste de gouverneur de Californie. John lui avait demandé s'il pouvait faire quelque chose pour lui et lui avait composé, depuis son lit, un hymne pour sa campagne. La chanson avait ensuite été réarrangée à Abbey Road, McCartney en ralentissant le rythme, trouvant le riff de basse et ce climat bluesy un peu glauque. Si les paroles originales traitaient de politique, les couplets de la version définitive prennent la forme d'une accumulation absurde de mots typique de Lennon. Quant au refrain « Come together over me », il pourrait signifier tout aussi bien « Rassemblons-nous » que plus prosaïquement « Jouissez tous sur moi, maintenant ». Mais nous n'en sommes pas encore là. Cet été 69, pour enregistrer ce nouvel album, Paul McCartney a rappelé Geoff Emerick, un jeune prodige de la prise de son âgé de 23 ans, mais qui, 7 ans plus tôt déjà, avait comme stagiaire chez EMI travaillé sur la toute première séance studio du groupe. En 66, Geoff Emerick avait ensuite pris le contrôle de la console sur Revolver, réussissant quelques tours de force, comme lorsque Lennon lui avait demandé que son chant sur Tomorrow Never Knows sonne comme la voix du Dalai Lama chantant du haut d'une montagne. Emerick ne s'était pas démonté et avait passé la voix de son maître au travers d'une cabine Leslie, un dispositif de haut-parleur rotatif. De même, il avait révolutionné la manière d'enregistrer la batterie de Ringo, plaçant les micros au plus près des fûts. Puis avait suivi Sgt. Pepper's, 400 heures de studio, et l'automne 68, le double album blanc pour lequel Emerick avait encore réalisé des miracles. L'ambiance de travail, toutefois, s'était révélée tellement éprouvante que l'ingénieur du son avait fini par claquer la porte du studio après une dizaine de jours. Ce printemps 69, Geoff Emerick est donc rattrapé par McCartney et George Martin. Rendez-vous est pris pour début juillet.
John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, John? A knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead.
Le 1er juillet 69, tandis que Paul, George Harrison et Ringo se retrouvent dans le studio 2 d'Abbey Road, qu'on n'appelle pas encore comme ça, ce sont officiellement les studios d'EMI, John Lennon, lui, sillonne encore les Highlands, où il est en vacances avec Yoko Ono, la fille de cette dernière, et Julian, son fils à lui. Ce jour-là, il pleut, et sur les routes écossaises étroites et mal entretenues, John, qui a toujours été un conducteur épouvantable, panique en croisant une autre voiture, précipitant l'Austin Maxi dans le fossé. Il se fait rafistoler le visage avec 17 agrafes, Yoko s'en fait poser 14, mais souffre également du dos. Après 5 jours passés à l'hôpital, ils rentrent tous chez eux. John ne se pointera à Abbey Road que le 9 juillet. Pendant ce temps, les autres Beatles se sont mis au travail. enregistrant les rythmiques de quelques courts morceaux qui constitueront un medley pour la face B, travaillant également sur des compositions de Paul McCartney, comme ce Maxwell Silver Hammer, pour qui on avait déniché une enclume de ferronnier sur laquelle tentait de taper en rythme le rôdi du groupe. Lennon refusera de participer à la finalisation du morceau, méprisant, comme il les appelait, ces trucs de grand-mère de McCartney.
Yoko ?
John ?
Yoko ?
John ?
Yoko ?
John ?
Yoko ?
John ?
Car le 9 juillet au matin, Lennon s'était finalement pointé, tout de noir vêtu, à la porte d'Abbey Road. Inquiet de son état de santé, les autres l'accueillent chaleureusement avant d'apercevoir Yoko derrière lui qui ne semble pas en grande forme. Cette dernière n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche que se profilent quatre types en habit de déménageur qui trimballent un grand paquet siglé Harrods. Ils le traînent à travers le studio et le déballent. Musiciens et techniciens découvrent alors sidérés qu'il s'agit d'un lit double que les livreurs complètent d'oreillers et de draps, bordant consciencieusement l'ensemble. Ce lit, c'est John qui l'a commandé afin que Yoko, qui souffre encore de l'accident, puisse rester au plus près de lui. John qui demande également qu'on suspende au-dessus de la couche un micro pour qu'elle puisse s'exprimer et donner son avis sur les enregistrements. La scène laisse les autres sans voix. Lennon leur refaisait, en pire, le coup de l'album blanc où il avait déjà imposé la présence de sa muse, au mépris de l'accord, interdisant jusqu'alors la présence en studio de toutes les compagnes ou épouses. Mais peu importe, ce que Lennon veut, Lennon, c'est l'imposer. France Culture, Jukebox, ce soir, Abbey Road, les Beatles dans l'impasse.
I'll be so bad.
John clamant son amour de Yoko dans ce « I want you, she's so heavy » dont l'enregistrement, ébauché en février 69, avait été finalisé en août, se finissant sur un bruit blanc produit par l'énorme synthétiseur Moog que George Harrison, toujours à l'affût de nouveaux instruments ou de textures sonores, avait fait venir. Yoko, donc, celle sous l'influence de qui John prenait depuis un an un virage avant-gardiste au détriment de la pop de toujours. La voilà donc, pendant des semaines, alanguie sur son lit dans le studio, vêtue de chemise de nuit blanche et coiffée d'un diadème d'impératrice. Tandis qu'elle recouvre ses forces, elle se remet à parler, enfin à miauler, d'une toute petite voix exaspérante, donnant son avis sur tout, commentant les choses en train de se faire. « Beatles vont faire ci, Beatles vont faire ça. »« Chérie, c'est The Beatles en fait », avait fini par lui répondre Paul. Yoko, qui se trouvera au milieu de l'un des moments les plus cocasses des sessions d'Abbey Road. Les quatre Beatles, à partir de l'arrivée de John et Yoko, évitent de se croiser, ne déjeunant pas ensemble et apportant chacun de quoi grignoter pendant le travail. Or, un jour qu'ils sont tous en régie en train d'écouter un mix, George Harrison aperçoit Yoko se lever de sa couche et aller taper dans ses petits gâteaux secs. Sacrilège. Un « that bitch » fuse. On imagine le silence qui retombe derrière, John qui bouillonne, ça vacille pendant quelques secondes, et pourtant, John prend sur lui et le soufflet retombe. Les Beatles qui, cet été 69, ont compris que la seule manière pour eux de venir à bout de ce projet serait de mettre de l'huile dans les rouages, de laisser leur vieux ressentiment de côté, histoire de terminer le boulot proprement. On ne parle même plus alors de décrocher la lune.
Nous sommes à quelques secondes de la phase finale de descente. À partir de maintenant, les choses sont extrêmement sérieuses. Aldrin et Armstrong, qui n'ont pas été très bavards jusqu'à présent, parlent peut-être encore moins. Top pour la mise à feu du moteur principal de descente du LEM. On corrige la position du LEM avec un certain nombre de chiffres, vous avez pu noter au passage. 9 forward. Tant pis, il reste 50 secondes. C'est fait, le LEM est posé. Le LEM est posé sur la surface lunaire. Les images arrivent, attention. L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit.
Et tandis que ce 21 juillet 69, le LEM, Aldrin et Armstrong galunissaient dans les studios d'Abbey Road, c'est le soleil qui se lève. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Cela semble faire des années qu'il avait disparu, mais voilà le soleil, alors ça va. Here Comes the Sun, que George Harrison avait composé au printemps, en pleine tempête du groupe, un jour que, réfugié dans le jardin de son pote Eric Clapton, le soleil était apparu et l'avait réchauffé. Mais le reste du temps, l'ambiance reste lourde à Abbey Road. John, probablement sous héroïne, se montre distant, erratique, cassant. George Harrison n'apprécie guère de son côté certaines réflexions de McCartney. Les quatre essayent autant que possible d'éviter de se croiser. Le travail se fait le plus souvent séparément, avec un seul ou deux des musiciens, les autres restant alors chez eux. Les séances débutent généralement en début d'après-midi, le ou les musiciens se frayant un passage parmi les fans qui se regroupent devant le studio. Mais parfois, McCartney, qui redoute les remarques de Lennon, vient plus tôt pour s'entraîner à chanter, comme sur Oh Darling, conscient que la chanson serait plus adaptée à la voix de Lennon et soucieux de ne pas subir moquerie ou humiliation. Semaine après semaine, pourtant, l'album prend forme. La chanson qui doit le refermer est intitulée « The End » et, en raison de sa portée symbolique, les quatre musiciens se mobilisent. On y entend le seul solo de batterie jamais enregistré pour le groupe par Ringo Starr, lui qui détestait l'exercice. Et puis, à la suite, il y avait quelques mesures à combler. Alors, les quatre décidèrent d'y inclure un solo de guitare. Lennon insiste pour le prendre, alors que George ou Paul, qui avaient un jeu plus fin, l'auraient volontiers interprété. Et là, miracle, tous trois s'entendent pour se répartir les mesures afin d'allier leur style dans un seul et même solo. Paul le commencera, suivi de George, et John le refermera. Lennon, qui, au moment de descendre dans le studio, a l'intelligence de demander à Yoko Ono de rester en régie et de les laisser seuls tous les trois dans l'arène. L'enregistrement a lieu en une seule prise. Pendant l'heure qu'il leur fallut pour prendre leur solo, écrit l'ingénieur du son Geoff Emerick, toute l'animosité, toutes les querelles et toute la merde qui avait circulé entre les trois anciens amis furent oubliées. On eût dit que John, Paul et George avaient remonté le temps, qu'ils étaient de nouveau des mômes jouant ensemble pour le seul plaisir de jouer. Quant aux paroles, signées McCartney, elles se referment sur le vers suivant « And in the end, the love you take is equal to the love you make. » À la fin, l'amour que tu retires est égal à l'amour que tu donnes. Même John finira par s'incliner, saluant le talent cosmique de McCartney. Sont enregistrés le 7 août 69 et les arrangements de cordes la semaine suivante. Des arrangements écrits par George Martin qui, s'il avait été central dans la production des disques précédents, est peu mis à contribution pour Abbey Road. Si l'on accepte également les chœurs de la chanson Because. Dont George Martin avait écrit les harmonies vocales. Pour des raisons techniques et un nombre limité de pistes disponibles, il faut regrouper les chanteurs pour l'enregistrer. Là encore, il est donc décidé que Lennon, McCartney et George Harrison chanteront en même temps. L'éclairage du studio est réduit au minimum. Ringo, qui ne chante pas, est là aussi pour les soutenir. Ces chœurs réclament une parfaite coordination et les prises s'enchaînent 20 ou 30 pendant près de 5 heures. Mais là non plus, personne ne rechigne, personne ne fanfaronne. Les Beatles sont réunis une dernière fois pour le meilleur et l'un des rares moments de grâce de ces séances. Reste à trouver un nom à cet album. Pendant des semaines, celui qui a tenu la corde est Everest, le toit du monde, l'exploit, mais aussi, et plus prosaïquement, une référence à la marque des cigarettes fumées par l'ingé son. Sauf qu'appeler un album Everest conduirait logiquement à aller s'y faire photographier pour la pochette. Or, c'est au-delà des forces de tout le monde, et notamment de Ringo, qui ne supporte pas les voyages. Ringo, qui lance alors timidement « Fais chier, on n'a qu'à aller dehors et l'appeler Abbey Road !» Et ainsi, le 8 août 69, il fait un temps splendide et les quatre Beatles se sont sortis dans la rue, sapés pour la séance photo. Il est 11h30 du matin. Deux policiers tentent, hors champ, de réguler le trafic. Et sous l'œil du photographe écossais Ian McMillan, juché sur une caisse de bois, les quatre Beatles effectuent deux allers-retours sur le passage piéton. La cinquième photo sera la bonne. L'album Abbey Road sort en Grande-Bretagne le 26 septembre. La semaine précédente, John a appelé Paul pour lui dire qu'il quittait le groupe. La nouvelle est d'abord gardée confidentielle et l'automne s'installe. Lennon, qui participe le 12 décembre à un festival de rock à Toronto, se produisant avec un nouveau groupe monté pour l'occasion, The Plastic Ono Band, comprenant Eric Clapton et Yoko Ono, et jouant notamment ce Year Blues composé jadis avec les Beatles en pensant déjà à Yoko et à l'après-Beatles.
Yes, I'm lonely.
Yoko.
Take two. Happy Christmas.
Tandis que John et Yoko fêtent Noël 69 en déclarant au monde la fin utopique de la guerre, le monde justement ignore encore la séparation des Beatles. laquelle est finalement officialisée au printemps 70 par McCartney en marge de la promotion de son premier album solo. Ça rend Lennon furieux. Mais peu importe les intérêts commerciaux en jeu, Paul n'en peut plus, d'autant que le mois précédent, Alan Klein, le manager des Beatles, a confié les bandes du projet Get Back à Phil Spector. Résultat, ce projet, initialement pensé pour donner à entendre les Beatles de façon brute, sans chichi, se retrouve noyé sous des échos massifs à un grand orchestre de cordes, un chœur féminin de 14 chanteuses. Les années suivantes voient Lennon et McCartney régler leurs comptes par albums et interviews interposés. Il faudra attendre 1974 pour que l'acte de décès définitif du groupe soit signé, à l'issue de nombreuses tractations commerciales et financières. La scène se passe au Plaza Hotel de New York. Sont présents McCartney et George Harrison. Ringo Starr, lui, a signé à Londres un peu plus tôt. Ce jour-là, autour de la grande table en bois verni, chacun se demande si John, qui habite à deux pas, va ou non se présenter. L'avocat de George Harrison l'appelle alors et se fait répondre par la nouvelle secrétaire de John, devenue son amante, répondre que non, Lennon ne viendra pas, les astres n'étant pas propices. L'astrologie ou la drogue, Lennon est alors au fond du trou. John, qui paraphera finalement la dissolution des Beatles le 29 décembre 1974 depuis Disney World en Floride, où il sera parti passer Noël avec sa nouvelle maîtresse dans le cadre kitsch et grotesque d'un village polynésien reconstitué.
But when I think about it, obviously, you know, I can change my mind.
J'ai été dur à un moment, au moment de notre divorce des Beatles. J'ai dit certaines choses, mais maintenant, avec le recul, je ne les pense plus tout à fait.
John Lennon, le 28 juin 1975, sur Antenne 2.
Incontestablement, on peut dire que dans les années 60, il y a eu un bateau qui s'en allait à la découverte du monde. Il y avait les Rolling Stones et tout ça sur le bateau. Mais nous étions tout en haut, nous étions les vigies, et c'est nous qui avons crié « Terre, terre !» Nous étions les vigies. Je crois que c'est ça l'importance des Beatles.
C'est sur ce « The Light That Has Lighted the World » signé George Harrison et publié en 73 que se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui, 1969, Abbey Road, le chant du cygne des Beatles. Merci pour leur préparation à Shushan Jergaillan, à Valentin Henry, à Antoine Vuillose de la discothèque ainsi qu'à Amélie Briand-Lejeune de l'INA. À lire notamment, en studio avec les Beatles, les mémoires de Geoff Emerick chez Le Mot et le Reste ainsi que ressorti chez le même éditeur, Revolution in the Head, par le critique musical Ian MacDonald. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur la page de Jukebox sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute, le téléchargement, la liste des morceaux et des archives diffusées. À la console ce soir, c'était Olivier Dupré, Agnès Catou à la réalisation, au micro et au stylo, à Maurice Chardeau. À samedi 19h pour un prochain Jukebox.
Hard to move on when you're down. speak.